introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game.
Bonjour tout le monde. Et soyez les bienvenus à Radio Sans Fréquence, dans l'émission Les Rolling Stones, le groupe rock le plus important de tous les temps. Une histoire en trois parties. Deuxième partie, Wild Horses, les chevaux sauvages. En 1968, les Stones traversent une crise. Il y a trois soucis majeurs. La rupture avec leur ancien manager et créateur de leur image, Andrew Luke Oldham. L'inefficacité de plus en plus marquée de leur fondateur et guitariste, Brian Jones. Et l'accueil plutôt froid de leur dernier album, l'expérimental et psychédélique Their Satanic Majesty's Request.
But what's puzzling you is the nature of my game. Ah, yeah, get down in it.
C'est l'heure du changement de direction, l'heure de redécouvrir leurs racines, l'heure de retrouver le blues. Avec cette marche arrière, ils arriveront à reprendre contact avec leurs fans. Il faut trouver un nouveau producteur de disques. Après le départ de Luke Oldham, le groupe a produit lui-même l'album Satanic Majesties. Mais le résultat n'était pas à la hauteur de leurs espérances. Pour la sortie de leur prochain album, les Stones décident de choisir comme producteur un jeune New-Yorkais, Jimmy Miller. Percussionniste et batteur de formation, Miller a déjà gagné une certaine notoriété comme producteur des groupes The Spencer Davis Group et Traffic. À partir de ce moment-là, il va transformer la sonorité musicale des Stones. Le groupe passe les premiers mois de 68 dans l'enregistrement de l'album Beggar's Banquet, le banquet des mendiants. souvent sans la participation de Brian Jones. Avant la sortie du disque, il décide de proposer un 45 tours qu'on ne trouve pas sur l'album. C'est une triomphe. L'essence de Jumping Jack Flash est remarquable pour l'époque. Richards utilise une guitare sèche à accords ouverts en ré avec un micro glissé dans la caisson pour donner un son plus ample et plus entier par rapport à une guitare électrique. Le riff interprété à la guitare est le plus affirmé depuis Satisfaction. En fait, le bassiste Bill Wyman prétend avoir écrit le riff à l'orgue. Mais Jagger et Richards ne le reconnaîtront jamais, ce qui occasionnera certains sentiments d'antagonisme entre Wyman et les deux meneurs du groupe. En tous les cas, Beggar's Banquet est un tournant dans leur carrière. La combinaison de Miller, de ses méthodes et une nouvelle énergie au cœur des Stones sont époustouflantes. Miller dira plus tard qu'il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ils tirent le meilleur des musiciens en leur redonnant foi en eux-mêmes. En studio, ils géraient aussi très bien les problèmes de Jones. Il a raconté comment Jones arrive un jour avec un sitar qu'il vient d'acheter pour s'amuser en l'utilisant pour jouer du blues. Jagger et Richards veulent qu'il déguerpisse. Mais Miller l'installe dans une pièce à côté pour jouer, sans être enregistré. Selon Miller, Richards travaille comme un fou, en jouant son propre rôle, mais il dit aussi ça de Jones. De plus, son expérience en studio donne une profondeur nouvelle au titre. Il superpose les instruments à percussion, ce qui donne une immense énergie à la musique. Souvent, il emploie des techniques un peu bizarres pour obtenir le meilleur son ou la tonalité idéale. Comme par exemple, de réaliser l'enregistrement sur un lecteur de cassette avec des excès de distorsion. Ou choisir une batterie d'enfant pour les percussions. Sympathy for the Devil, Compassion pour Satan, chanson que nous écoutions au début de cette émission, avec ses rythmes de samba, puise son inspiration de l'œuvre Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Jagger imagine la chanson dans un ton plutôt folk, mais Richards change le style et Miller ajoute des congas et divers instruments de percussion. Tout ça pour un résultat inoubliable. Street Fighting Man, un métier de la rue, aussi sorti en 45 tours, est peut-être la chanson la plus politique des Stones. À l'époque, le calme semble régner à Londres, mais aux États-Unis et à Paris, les jeunes sont dans les rues. Jagger, s'exprimant dans les années 90, revient sur la situation française. Oui, cela est une source d'inspiration directe, parce que cela contrastait avec Londres, où tout était très calme. Mais il n'y avait pas seulement la France, il y avait aussi l'Amérique, à cause de la guerre du Vietnam et ses troubles sans fin. Je pensais que c'était une très bonne chose à l'époque. Il y avait toute cette violence qui s'est déroulée. Pensez qu'ils ont presque renversé le gouvernement français. De Gaulle a eu la trouille, il s'est en quelque sorte enfermé de son palais. Et le gouvernement ne faisait presque plus rien. La police anti-émeute française a été fantastique, ajoute-t-il, en soulignant sans doute le fait qu'il n'y a pas eu un mort durant les événements de 68. Dès sa sortie, la chanson est interdite sur beaucoup de stations de radio américaines. Et cette interdiction augmente considérablement sa popularité. Le lendemain de sa sortie, en août 68, les Beatles sortent Hey Jude, avec sur la face B, Revolution, qui traite du même sujet, mais dans une autre optique. L'album connaît un très grand succès des deux côtés de l'Atlantique. Richards a dit « Il y a une très grande différence entre Satanic Majesties et Beggar's Banquet. J'en avais ras-le-bol de la merde de Maharishi, de ses cloches et de ses billes. On a décidé de tout chambouler. Notre musique de cette époque est remplie de colère. » Fin de citation. Boosté par le succès de Beggar's Banquet, les Stones, de plus en plus fréquemment, sans la participation de Jones, qui n'a guère contribué à la réalisation du dernier album, se trouvent encore en studio en février 69. Le résultat, le chef d'œuvre, Let It Bleed, Laisse-le saigner, surpassera même Beggar's Banquet et deviendra vite un classique des années 60. C'est pendant l'enregistrement de l'album que Jones quittera définitivement le groupe. Pour trouver son remplaçant, les Stones auditionnent plusieurs guitaristes, dont quelques-uns des plus réputés de l'époque. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Enfin, Jagger appelle John Mayall, leader du groupe The Blues Breakers, qui lui propose le guitariste de son propre groupe, le jeune Mick Taylor. Taylor n'a que 20 ans, mais montre déjà une technique très fluide et lyrique, en contraste total avec le style rugueux de Richards. De cet instant, c'est plutôt Taylor qui tiendra le rôle de soliste et Richards qui jouera de la guitare rythmique. Les Stones veulent un grand concert gratuit à Londres en juillet 69 pour faire connaître Taylor aux fans. Le concert a bien lieu, mais pas selon le plan prévu, car le mort de Brian Jones quelques jours avant transforme la présentation du nouveau soliste en une apologie de son prédécesseur. Quand Taylor rejoint le groupe, l'enregistrement de l'album est pratiquement achevé. Il ne joue que sur deux titres, mais son influence est présente depuis le début. Écoutons Country Honk, une des chansons de l'album. Selon Richards, Taylor l'écoute. Et tout de suite, propose que les Stones la refassent dans un style plutôt rock. La nouvelle chanson a quelques reflets de l'ancienne, mais elle deviendra un des tubes les plus célèbres du groupe. Elle commence avec la cloche de vache, probablement le plus renommé de tout le temps, joué par le producteur Miller. Ensuite, on écoute la guitare de Taylor suivre les paroles de Jagger, technique que Taylor va souvent reproduire. Avec Jumping Jack Flash, chanson sortie avant Beggar's Banquet et qu'on ne trouve pas sur l'album, les Stones font la même chose avec Honky Tonk Women. Mais même sans ce tube, Let It Bleed reste une vraie réussite. L'album contient les deux chansons élues par les fans de Stones comme les deux meilleures de toutes. C'est à vous à juger. Nous n'avons pas le temps d'écouter la totalité des deux titres, mais on peut bien apprécier la comparaison. D'abord, You Can't Always Get What You Want, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, démarre presque comme une chanson country, mais devient vite une œuvre orchestrale avec la participation de la chorale Bach de Londres et une poignée de prestigieux musiciens de rock. Le producteur Miller est à la batterie. In her glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. You can't always get what you want. It just might find.
Oh,
Mais, pour ma part, c'est l'autre titre que j'ai toujours considéré étant comme le plus marquant de la fin des années 60 et de l'époque hippie. Sombre et menaçante, la mélodie commence avec la guitare de Richards, doublée une et puis deux fois. Les paroles parlent de la guerre et de la misère, avant de terminer en évoquant la paix et l'amour. Give me shelter, donnez-moi un abri, montre toutes les qualités des Stones. C'est peut-être la voix de la chanteuse américaine Mary Wilson qui impressionne le plus. Selon la légende, Miller l'appelle un soir très tard afin qu'elle vienne de suite enregistrer une partie vocale. Elle fait tellement d'efforts et ça s'entend qu'en rentrant chez elle, elle fait une fausse couche. Et si Gimme Shelter semble marquer la fin d'une ère, il y a un autre signe, malheureusement plus tragique. La fin des années 60 est vraiment le temps des fêtes de la musique. Woodstock, qui se déroule en août 69 dans l'état de New York, est devenu le symbole de l'époque hippie, avec des chants d'amour, de paix et contre la guerre au Vietnam. Les jeunes qui y assistaient étaient les enfants de Dieu et l'incarnation de la tolérance et de la liberté. Les Rolling Stones effectuent une tournée aux États-Unis après 3 ans d'absence. Celle-ci ne se déroule pas sans critiques, en particulier sur le prix de billets trop élevé. Afin de contrer ces accusations et en remerciement de l'accueil chaleureux du public américain, ils décident d'organiser un concert gratuit prévu le samedi 6 décembre 69 à Altamont, en Californie. Mais le festival tourne vite au désastre. L'événement est rapidement mis sur pied, mais trop rapidement. Le site n'a pas assez de sanitaires ni de tentes, il manque de tout. Le manager des Stones confie la sécurité du festival aux Hells Angels, payer $500 en bière. Tôt dans l'après-midi, les violences commencent entre les Hells Angels et les spectateurs. Plusieurs artistes s'arrêtent de jouer et The Grateful Dead, groupe qui a conseillé l'embauche de Hells Angels, refuse d'entrer en scène. Les Stones arrivent en fin d'après-midi pour clôturer le concert. Selon Charlie Watts, on est arrivé sur le site en hélicoptère et on a vu cette marée humaine déjantée, des mômes défoncés, des filles à moitié nues. C'était une sorte de Woodstock, le genre de truc qui marchait à l'époque. Mais cette mode tirait sur sa fin. C'est Woodstock a lancé la mode. Elle a pris fin ce jour-là. Fin de citation. C'est alors que Jagger est frappé au visage par un jeune homme de public. Il décide d'ignorer l'incident. Pendant le concert, l'atmosphère est électrique. Jagger lance des appels au calme, mais une première bagarre éclate lorsque le groupe joue leur troisième morceau, qui est interrompu pendant des longues minutes. Quelques minutes plus tard, une autre bagarre éclate. Un spectateur noir, âgé de 18 ans, Meredith Hunter, est poignardé à mort. Le bilan est lourd. Autre Meredith Hunter, trois autres personnes ont trouvé la mort. Deux enfants ont été écrasés dans leur sac de couchage par un conducteur sous acide. Et une personne s'est noyée dans un canal d'irrigation. Pour les Stones, la pilule sera amère et dure à avaler. Ils mettront plus de 3 ans avant de revenir jouer aux États-Unis. Jagger a dit « Ça a été horrible, vraiment horrible, tout sens responsable. Comment cela a-t-il pu déraper de sa sorte ?» Mais je n'ai pas pensé à tous ces trucs auxquels les journalistes ont fait allusion, la grande perte de l'innocence, la fin d'une ère. C'était davantage le côté effroyable de la situation, le fait horrible que quelqu'un soit tué pendant un concert, la tristesse de sa famille, mais aussi le comportement des Hells Angels. Fin de citation. Et une autre époque arrive à la fin, avec l'expiration du contrat entre les Stones et la maison de disques Decca. Les Stones créent leur propre maison de disques Rolling Stones Records, ce qui leur donne plus de contrôle sur leurs enregistrements. Après la dissolution des Beatles, les Stones sont, sans aucun doute, le plus grand groupe de rock'n'roll dans le monde. Et la période entre 68 et 72 verra leur apogée. Les séances pour le prochain album, Sticky Fingers, Les Doigts Collants, commencent à la fin de 69. Mais l'album sort finalement en avril 71. La pochette, réalisée par Andy Warhol, montre un jean avec une fermeture éclair ouverte sur un caleçon blanc. La photographie n'est pas celle de Jagger, contrairement à ce que l'on croyait à l'époque. Mick Taylor laisse son empreinte partout, surtout avec sa guitare slide, que se retrouve sur 2 titres écrits par Taylor lui-même, mais jamais crédités, et aussi ici, sur Wild Horses.
Wow.
Le tube de l'album et son titre phare parlent des femmes et des drogues. Poussé par le saxophone de Bobby Keys, Brown Sugar, le sucre roux, deviendra un tube partout dans le monde. Écrite en totalité par Jagger, la chanson est néanmoins créditée à la fois à Jagger et à Richards. Comme Lennon et McCartney, les deux meneurs de groupe partagent toujours le crédit, peu importe l'auteur. Et peut-être, juste peut-être aussi, selon Taylor and Wyman, même si l'auteur n'est aucun des deux. L'album est aussi le premier à porter le logo des Stones, une langue et des lèvres rouges, créé par John Pash, est devenu l'image la plus célèbre dans la musique de tout le temps. Pour échapper au fisc britannique, les Stones posent leurs valises en France en 1971. Jagger habite Paris avec sa femme Bianca, tandis que les autres s'installent sous la Côte d'Azur. Richards loue la villa Nelcott à Villefranche-sur-Mer, villa dont la cave est transformée en studio. Ils commencent, au début de l'année 72, leur double album « Exile on Main Street », « L'exil sur la rue principale ». Mais l'ambiance change. Selon Wyman, les trois derniers albums, enregistrés avec Jimmy Miller, et tous excellents, ont été réalisés avec la participation de tout le monde, sous la direction de Miller. À Nelcott, à cause de l'usage quotidien de héroïne par Richards, ce n'est plus du tout pareil. Très souvent, tout le monde n'est pas là en même temps. En fait, une fissure commence à se creuser entre les membres de l'équipe, surtout Richards et sa petite amie Anita Pallenberg, mais aussi Miller, Taylor et la saxophoniste Keys, qui usent régulièrement de drogue, et les autres, comme Wyman, Watts et Jagger, qui essaient de limiter ou de supprimer son utilisation. Jagger n'est pas souvent présent à Nelcott. Pour la première fois en 10 ans, grâce à l'influence des drogues, sa vie et celle de Richards commencent à se séparer. La plupart des chansons sont enregistrées, au moins en partie, ici en France. Mais Jagger sera un maître de la réalisation définitive. Il emmène les enregistrements avec lui aux États-Unis, où il double les parties instrumentales des claviers avec le célèbre pianiste noir Billy Preston et rajoute des parties chorales. Donc, sur plusieurs plages de l'album, on trouve l'influence du gospel, comme ici, sur Shine a Light, éclairez-le. Je parie que vous allez chanter cet refrain plus tard dans la journée. On trouve aussi l'influence gospel sur la chanson qu'on décrit comme une des plus émotives jamais chantées par Jagger. Let it loose. Lâche-le. Malgré, ou peut-être grâce à, une ambiance difficile, les Stones sortent un classique. À sa sortie, l'album reçoit un accueil plutôt tiède de la part de la critique. Sans tube massif, il a du mal à accrocher le public. Keith Richards déplorera même dans son autobiographie le grave manque de niveau de son public d'alors. Très peu de gens comprennent réellement ce que le vrai rock'n'roll. Fin de citation. Mais, comme un bon vin, l'album a bien mûri et plusieurs fans le considèrent désormais comme le meilleur album des Stones. On peut dire que musicalement, en dépit du chaos de Neil Cott, c'est presque une perfection. Mais il ne faut pas oublier que sans Jagger, il est tout à fait possible que l'album ne soit jamais sorti. Jimmy Miller perd les pédales et Jagger a dit qu'il avait envie de tout réenregistrer à nouveau. Mais si on cherche Sex, Drugs and Rock'n'Roll, on les trouve ici. Les 45 tours tirés de l'album Tumbling Dice, Les Dés qui tombent, contiennent les mêmes ingrédients que les Honky Tonk Women ou Brown Sugar et marquent la fin d'une série de 5 tubes presque sans pareil. Série qui a commencé avec Jumping Jack Flash en 68. Les Stones sont sur la crête de la vague. Mais pendant combien de temps encore? Vous écoutiez Wild Horses, la deuxième partie de notre exploration de l'histoire des Rolling Stones. Une mission proposée par Ewan Davidson. Mes remerciements à Julien à la technique, à Jean-François qui m'aide encore avec l'expression française et à toute l'équipe du Centre culturel Aveyron Ségala Vior. Surtout, merci à vous tous de m'avoir accompagné. Bonne journée et bonne continuation d'écoute sur Radio Sans Fréquence.